Le balado qui suit est une production de Communication Niviti, Capable Média.
Ici Kim Auclair pour Capable Entreprendre sans limite et vous écoutez la saison 2 de ce magazine que j'ai eu énormément de plaisir à produire, mais aussi à animer. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager en grand nombre chacun des épisodes. Bienvenue à Capable. Aujourd'hui, on rencontre une entrepreneure qui milite pour une société inclusive. Maude, tu es fondatrice de Défis sans limite. Tu es une grande militante pour tout ce qui est l'inclusion et l'accessibilité universelle. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais avancer les choses à ta façon, à ta manière, à ton rythme aussi. Tu fais plein d'activités pour briser l'isolement des jeunes adultes qui ont des limitations physiques. Et tu fais aussi de la sensibilisation à ta façon dans le milieu des affaires pour sensibiliser les gens à l'importance de l'inclusion. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'accueillir.
Écoute, on va commencer par le début. Parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Défis sans limite?
J'ai créé Défis sans limite, pas par choix, mais par nécessité. À 18 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de lacunes auprès du gouvernement, notamment qu'après 18 ans, on coupe les allocations pour les parents qui recevaient pour avoir une accompagnatrice, pour faire des activités en dehors du domicile ou même pour faire du gardiennage de répit. Tout ça est coupé à partir de 18 ans. Donc, tout se repose aux épaules des parents ou des proches aidants pour faire toute activité de pleine participation en dehors du domicile pour les jeunes adultes. Donc, quand j'ai compris que c'était ça, j'ai un peu cherché s'il y avait d'autres organisations qui étaient prêtes à justement permettre de ces personnes-là d'avoir une meilleure participation sociale. Puis il n'y en avait pas. Soit c'était des centres de jour, c'était des personnes pour lourdement handicapées. C'était du lundi au vendredi. De 9h à 5h. Puis moi, je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus sortir du communautaire, aller plus sortir du modèle médical pour aller dans le communautaire, pour justement permettre à ces personnes-là qui travaillent, qui font du bénévolat, qui vont à l'école, mais qui veulent vraiment avoir une pleine participation sociale. Donc, je me suis dit, bon, il n'y en a pas d'organisme qui offre ce service-là d'accompagnement. On va l'offrir par nous-mêmes.
Puis aujourd'hui, ton entreprise, quand même, a un conseil d'administration, énormément d'activités qui rassemblent beaucoup de monde. Moi, je vois les photos sur Facebook, puis je trouve ça beau. T'es-tu fière?
Oui, très fière du parcours. On a commencé en 2015, puis c'est... Ça a été tout un parcours parce que ça a commencé notre projet d'école du cofondateur qui a créé l'organisme avec moi. Après ça, on a commencé par une gang d'amis qu'on faisait des activités. Après ça, on a voulu se rendre plus formel. Donc, on est devenu un OBNL en 2021. Et par la suite, on est devenu un organisme de bienfaisance en 2024 pour justement aller chercher le plus de financement possible aussi. La plupart de nos membres sont là depuis le début. C'est vraiment pour et par les personnes en situation de handicap qui sont importantes à ce niveau-là aussi. Puis c'était important pour moi que ça reste dans la communauté aussi. Et c'était important pour moi aussi que je voulais aller chercher des personnes du monde des affaires, de l'innovation sociale pour justement faire vivre que les personnes en situation de handicap, on a une place dans la société.
J'ai l'impression que le milieu des affaires, c'est quand même assez récent de gagner un prix. Arista, en 2024, par la jeune chambre de commerce de Montréal, et justement de te rapprocher de la communauté d'affaires, qu'est-ce que tu remarques, le regard de ces gens-là, quand ils voient une personne comme toi qui monte sur scène?
C'est-à-dire que ça fait quelques années que j'ai essayé de m'impliquer, notamment dans la Grande Chambre de commerce de Montréal, puis dans d'autres instances, pour justement un peu faire voir ma place, puis pour avoir un meilleur vivre ensemble aussi, là, c'est de qu'on soit pas juste à part aussi, parce qu'on est on se le cachera pas, on est dans une société qui nous présente comme une sous-catégorie, donc sous-représentée, donc de dire qu'on a la place comme tout le monde, puis que vraiment c'est une grande ouverture, beaucoup de curiosité, qui veulent en savoir davantage, veulent s'impliquer, ils veulent devenir bénévoles aussi chez nous, donc on voit quand même un changement sociétal à ce niveau-là aussi, mais ça reste que il faut faire nos preuves aussi, puis il faut vraiment, on est challengé dans ce monde. Là, c'est certain.
Défi sans limite, pour toi, c'est une forme de réalisation aussi. J'ai l'impression que c'est comme un projet où est-ce que tu peux tout mettre tes talents à un seul endroit.
Oui, c'est ça. Ben, je voulais créer une opportunité de travail également aussi. Puis créer aussi un service qui va répondre aux besoins des jeunes adultes en situation de handicap aussi. Et créer aussi ma propre opportunité de travail. Et éventuellement, j'aimerais ça une opportunité de travail pour d'autres personnes aussi.
Ah oui, parce que là, vous êtes toutes des bénévoles. Il y a juste toi qui es directrice générale, fondatrice en même temps.
Oui, puis j'ai quelqu'un en communication, puis éventuellement avoir quelqu'un en administration aussi. Mais c'est si on fait beaucoup d'essayer de sensibilisation, donc j'aimerais éventuellement peut-être former des personnes en situation de handicap pour donner ces ateliers-là, pour créer du travail aussi sur mesure pour ces personnes-là.
Toi, ta différence, je pense qu'il y a des différences invisibles, il y a des différences visibles aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
J'ai la paralysie cérébrale, donc ça a atteint mes quatre membres, donc mes deux jambes, mes deux bras. Ma plus grande limitation, j'ai aucune dextérité manuelle, donc je peux pas prendre un verre d'eau, ça me prend une taille. J'ai un problème d'audition aussi, je suis appareillée de deux oreilles depuis l'âge de 6 mois. Et aussi, j'ai un trouble de langage parole dû à la paralysie cérébrale.
Mais c'est quand même incroyable, moi, je trouve, le fait que tu aies démarré ton organisme, puis que tu aies aucune limitation finale. Tu te débrouilles, mais quand même, ta différence, en quoi elle influence ton quotidien, tes limites, en fait?
Ben, j'utilise mes limites comme une force. Donc, toute ma vie, j'ai été obligée de demander de l'aide pour que ça soit dans mon quotidien partout. Donc, d'utiliser cette force-là pour l'utiliser dans mon quotidien professionnel, d'aller chercher. T'sais, on sait qu'à chaque fois, j'ai pas étudié en entrepreneuriat, j'ai même pas secondaire 5, même pas été au CGF. Là, je suis en train de faire un certificat à Concordia pour dans le domaine communautaire. J'ai réussi à rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire que d'utiliser cette force-là, d'aller chercher des alliés, de dire « OK, toi, t'es bon en relation d'aide, toi, t'es bon pour fonder une organisation, comment qu'on fait ci, comment qu'on fait ça », d'aller poser des questions, vraiment d'être curieux et curieuse aussi pour justement s'allier là, puis avoir le plus grand nombre de personnes autour de toi.
C'est quoi la vision de Défi sans limite dans 5-10 ans? Tu en as parlé un petit peu, mais je serais curieuse de voir où est-ce que tu t'en vas avec tout ça, parce que moi, je trouve, comme je l'ai déjà dit plus tôt, je trouve que tu as quand même accompli énormément de choses. Là.
Ben, c'est ça que mon plus grand rêve, c'est de pérenniser l'organisme, parce qu'on sait qu'il ne croit pas qu'on est sur appel à projet, sur appel à projet, donc ça serait d'avoir financement à la mission. Puis aussi faire grandir l'équipe également aussi et d'offrir un peu le même style que l'organisme Grand Frère Grande Sœur, donc un organisme qui offre de l'accompagnement pour les aînés individuellement, mais là ça serait pour les jeunes adultes aussi qui puissent avoir de l'accompagnement individuel pour faire une pleine participation sociale, que ça soit pour aller faire des cours, que ça soit pour sortir de Montréal ou juste aller peu importe une sortie qui souhaitera avoir de l'accompagnement.
Puis quand tu approches du financement, pour aller chercher du financement, est-ce que tu trouves ça difficile ou quand même tu as une certaine confiance? Là, c'est sûr que tu as pris beaucoup d'expérience avec les années, mais est-ce que tu trouves ça difficile?
Je dirais que c'est difficile de demander de l'argent pour l'accessibilité universelle.
C'est vrai?
Oui.
Les gens comprennent pas c'est quoi?
Non, parce que la plupart de nos besoins, c'est d'avoir du billet pour des déplacements, parce qu'on peut pas prendre des transports adaptés pour utiliser des taxis réguliers, ou ça peut être d'avoir une accompagnatrice, un accompagnateur pour certaines, qu'on doit défrayer, à certains cas. Fait que oui, on a des bénévoles, mais aussi, dans mon cadre de travail, j'ai besoin d'être accompagné aussi. Donc, c'est peut-être des frais qui ne rentrent pas dans aucun cadre budgétaire. Puis aussi, il faut demander à chaque fois, OK, puis le justifier aussi. Puis l'autre chose que je remarque, c'est tu vois, les organisations vont offrir quelqu'un qui travaille en accessibilité, qui sont posés d'être là pour nous aider à remplir le tout, mais ça fait pas partie de leur taille de nous accompagner. Fait que je crois qu'un peu, est-ce qu'on est là pour des bonnes raisons ou c'est juste pour l'image ou c'est dommage.
Puis l'accessibilité universelle, c'est sûr qu'on parle ici d'accompagnement, on parle d'adaptation en fonction de vos besoins pour les handicaps physiques, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu plus loin que ça aussi. C'est quoi la définition pour toi de l'accessibilité universelle?
La définition, c'est sûr que c'est un grand concept, l'accessibilité universelle. Là. J'aime beaucoup le diviser en 4 grandes valeurs, donc architectural, urbaniste, donc coutier, porte automatique, rampe d'accès, avoir du stationnement réservé pour des vignettes aussi, pour qu'on puisse se stationner très près du bâtiment. Mais après ça, il y a tout ce qui est service, programme et emploi. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui est en situation de handicap dans votre équipe? Est-ce que vous offrez des programmes qui sont vraiment adaptés? Ça peut être dans un centre de loisirs, est-ce que vous offrez du yoga adapté, où tout le monde se met sur une chaise et on fait du yoga. Quand on parle de service, c'est que vous avez un service d'interprétation. Donc, c'est ce genre de choses-là. Ou un système auditif également. Et aussi, on a la communication.
Oui, merci.
Donc, quelque part, qu'on ne se cachera pas, la communication au sens large, donc tout ce qui est numérique, mais aussi site web, vos réseaux sociaux, ça fait toute la signalisation dans vos bâtiments, aussi est-ce que vous offrez des alternatives papier avec plusieurs langues, est-ce que en langue simplifiée également aussi. Et le dernier qu'on oublie, c'est la sensibilisation et la formation. Fait qu'on a beau avoir un bâtiment très moderne, très accessible culturellement, mais si...
C'est énormément de choses, en fait, mais il y a aussi les mots qu'on utilise. Tu sais, je pense, toi, t'as pas eu de secondaire 5. Fait que, tu sais, t'as une façon de s'exprimer qui est assez simple, mm-hmm. mais quelqu'un qui a plein d'études économiques ou des mots hyper compliqués, bien ça, on se comprend, on a les deux une sourdité, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi. L'accessibilité universelle, c'est la manière qu'on dit les choses.
Exactement. Puis on le fait pour les personnes en situation de handicap, mais on le fait pour l'ensemble de la population. Qu'une personne qui vient d'arriver au Canada, qui connaît pas bien le français ou l'anglais, ben, peut-être que par des dessins ou par quelque chose de plus simplifié, va faciliter les choses aussi. Ou qu'une personne qui, ça peut être un jeune enfant, c'est vraiment de le faire pour tout le monde, pour qu'il puisse se sentir inclus.
En passant, Capable Entreprendre sans limite vous est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, Evol. Depuis 30 ans, Evol soutient les entrepreneurs du Québec avec une approche humaine et distinctive. L'organisation reconnaît la vision unique de chaque projet et prend le temps de comprendre la réalité des entrepreneurs afin d'offrir un accompagnement personnalisé. Personne ne devrait avancer seul devant les défis. Pour en savoir plus, visitez evol.ca. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une progression depuis quelques années envers l'intérêt? L'intérêt, il y a une bonne, meilleure sensibilisation, mais qu'il y a encore énormément de travail à faire aussi.
Oui, mais je dirais que les entreprises ou les organisations, c'est encore comme un projet. Et non, quelque chose en continu. Alors qu'on ne cachera pas l'accessibilité pour toujours émerger des besoins. Donc, de toujours le rappeler qu'il faut partir dès le début, puis le travailler en amont et non le faire après que tout soit fait pour reconstruire encore une fois.
Qu'est-ce que les organisations qui devraient faire tout de suite la première action qu'elles devraient faire si elles ne savent pas par où commencer, par exemple, mais qu'elles sont sensibilisées? Ça serait quoi exactement? Parce que peut-être qu'ils ont peur de... Ils ont des préjugés par rapport à, aux adaptations à faire, puis ils pensent que c'est juste de mettre une rampe ou juste de faire un ascenseur accessible. Mais tu sais, il y a des actions encore plus simples, je suppose.
Ben, déjà, en partant de consulter les personnes concernées qui vont aller dans vos bâtiments ou qui vont faire vos services aussi, d'aller voir des organisations qui vont offrir, qui vont venir vers vous aussi, faire des consultations ou même impliquer les personnes qui sont déjà dans votre équipe, qui sont peut-être en situation de handicap aussi. Donc, vraiment, d'y aller en amont le plus possible avec les personnes concernées.
Mais tu as mentionné quelque chose d'important aussi, de consulter les personnes en situation de handicap dans l'entreprise, mais je trouve ça particulier aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des handicaps invisibles, qui ne le mentionnent pas par peur que ça nuise à leur travail, par peur que ça ait un impact négatif sur leur capacité. Mmh. Et ça me fait penser aussi, toi, tu as eu de la misère aussi à trouver des emplois avant de créer Défi sans limite. Est-ce que je me trompe?
Oui. Ben, c'est ça, j'ai eu quelques emplois, mais c'est, ça a été dans le monde du handicap aussi. Donc, mais quand même.
C'est plus
quand
facile.
Même, j'ai vécu de la discrimination pareil aussi. Mais pour répondre à la question, c'est très bien pour ceux qui sont déjà à l'emploi, qui ont peut-être développé un handicap invisible au cours de leur carrière, mais peut-être de faire une campagne de sensibilisation. De dire que vous, en tant qu'employeur, vous êtes prêts et ouverts à en parler aussi pour que les personnes se sentent à l'aise de s'auto-dévoiler aussi.
Le mot handicap, pour toi, ça représente quoi?
C'est quand même très, très large. Moi, j'aime mieux dire personne en situation de handicap. Il y en a qui aiment mieux dire handicapé. Parce que c'est moi, je dis que mon handicap, souvent, c'est plus l'environnement puis l'attitude que mon handicap lui-même qui est le pire handicap.
Ça reste un fait. C'est pas, on dit pas personne en, non, moi, je préfère le mot personne en situation de handicap que personne handicapée. C'est plus, moins négatif, si on peut dire. Mais j'ai l'impression que c'est encore un blocage pour beaucoup de personnes de juste le dire, de s'affirmer comme une personne avec un sens. Puis j'ai l'impression aussi que ça changerait tellement de choses si on le dirait plus. Normalement, ça aiderait à tout ce que tu fais en fait.
Exactement, mais il ne faut pas oublier que les personnes handicapées, ça serait connotatif plus médical. Nous, on l'utilisait dans les années 50-60. Là, après ça, ben, quand les années 70, on a plus évolué au niveau de désinstitutionnaliser les personnes handicapées. Là, on a commencé à utiliser le mot personne en situation de handicap, plus un modèle social. Là, on s'en va plus dans un modèle affirmatif où on va dire, moi, j'aime mieux m'appeler personne handicapée ou personne en situation de handicap. Où c'est où il y a une personne sur le.
Puis est-ce que tu te sens comme une personne en situation d'handicap? Oui, tu l'es, mais tu sais, est-ce que tu te sens handicapée?
Ça dépend dans les contextes.
Ça dépend des contextes, oui, mais je veux dire, quand est-ce que tu sens le plus handicapée?
Je te dirais que c'est vraiment dans des situations que j'ai hors de mon contrôle. Donc, on ne se cachera pas avec la politique en ce moment, toutes les coupures budgétaires, que ce soit les services à domicile, que ce soit les services aussi en employabilité, aussi le programme PAD aussi pour adaptation à domicile. J'en pense qu'il y en a déficit, c'est fou. Donc, l'impuissance d'avoir, de dire que j'ai aucun contrôle pour avoir mes besoins propres, et juste avoir une douche à tous les jours, c'est une bataille.
Puis ton entreprise, Défi sans limite, ben c'est un peu là où est-ce que tu aurais plus de contrôle pour justement compenser à tout ce qui se passe autour de toi.
Oui, tu dois peut-être avoir une meilleure visibilité, puis de donner une place à ces personnes-là, d'avoir leur voix. Faut que ça ne se cachera pas, mais les jeunes adultes sont oubliés auprès des instances gouvernementales pour leur voix. On parle beaucoup des enfants. Des adolescents. On va parler beaucoup des aînés, mais très peu des jeunes adultes.
Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli avec Défi sans limite? Y a-tu un moment qui a été important pour le développement de ton entreprise?
La grande question. Puis dans ce petit moment, je pense que ça a été la première fois qu'on a vraiment eu nos lettres patentes là, pour être officiellement nos BNL. On est encore à la fin de la pandémie, des grandes fins des pandémies. Comme on avait de la misère à se voir et tout. Fait que avec un partenaire, c'est ta conjointe était avocate. Fait qu'on avait réussi à surmonter le tout. Donc, j'étais très, très fière de ce moment-là. Là, comme enfin, on a réussi cette étape-là aussi. Puis sinon, un autre moment où des membres qui m'ont dit « Ah, grâce à Défi sans limite, je prends le transport en commun. » C'est les moyens de transport adaptés. Je me suis trouvé du bénévolat. J'ai un appartement.
Donc, c'est fort aussi, là. Parce que dans le fond, c'est vrai que t'accompagnes beaucoup des jeunes adultes à s'accomplir autrement, à être actifs, puis ça leur donne le goût d'être plus autonome aussi.
Oui, oui. Ah.
Ben, bravo. Puis on arrive déjà à la dernière question. Ça serait quoi tes conseils pour toi, pour tout entrepreneur, toute personne avec des défis quand même importants, des limites importantes, s'ils veulent se réaliser comme tu le fais, par où qu'ils doivent commencer?
Ben, par poser des questions. Puis je pense que souvent, on a tendance à attendre que les gens vont cogner à notre porte, alors que c'est le contraire, il faut cogner à les portes. Puis le conseil que je vous donnerais aussi, c'est de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Peu importe que vous n'êtes pas sûr ou vous dites « Ah non, c'est pas moi », au moins l'essayer, vous l'aurez essayé. Puis si ça fonctionne pas, ben on passe à l'autre.
Ben, merci, Maud.
Ça fait plaisir.
Ça me fait plaisir de t'avoir sur le studio. Je t'ai fait une petite carte avec une petite citation qui résume un peu ta mission.
Ah oui!
Fait que c'est marqué l'accessibilité universelle, un droit, pas un luxe. Fait que j'ai mis un petit mot à la fin qui est un peu la raison d'être du balado, donc de célébrer ta débrouillardise. Il y a aussi Touriste, c'est une gang qui a les mêmes valeurs que moi. Donc, ça, c'est ton petit cadeau de Tourisme Shawinigan.